bonsoir. Merci d'être fidèle à Radio Courtoisie. C'est toujours troublant dans la solitude d'un studio d'imaginer les auditeurs. Donc vous êtes là ? Nous partageons évidemment des idées, des sentiments, un goût de découvrir, de comprendre, d'être étonné. Ceci est commun, je pense, à bien des radios, bien des médias. Mais ici, nous partageons avec, heureusement, des nuances et des variantes. La même envie, je crois, de défendre notre patrimoine, notre culture, notre cher et vieux pays, comme a dit quelqu'un il y a une soixantaine d'années. Et ça n'a rien de honteux, rien de frileux, rien de rance, comme on aime bien le dire parfois. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur Brigitte Bardot. Et ce n'est pas de l'opportunisme, car avant Noël, nous étions en discussion avec son mari, Bernard Dormal, à qui j'exprime ma compassion, pour organiser en janvier une interview de cette merveilleuse Française. Le destin ne l'a pas permis, mais j'ai envie brièvement de dire mon écœurement face à beaucoup de commentaires désolants qui ont jugé sa personnalité comme clivante et controversée. Faut-il rappeler ici sa filmographie, ses disques, son magnétisme ? Pourquoi tant de réserve en ce moment ultime ? Sur TF1, on cite ses condamnations pour propos racistes. Sur RMC, on parle d'une réac misogyne. C'est mesquin, c'est navrant, en un mot, c'est assez minable. Revoyez donc plutôt le mépris, la vérité, l'ours et la poupée, Viva Maria, voilà. C'est peut-être la plus grande star féminine de l'histoire du cinéma français et si peu de gens de ce milieu pour lui rendre un hommage qui ne soit pas ambigu. C'est vraiment désolant. Plie le genou devant la doxa molle, elle ne l'a jamais fait et merci pour ça aussi. A-t-on reproché à Yves Montand, à sa mort, d'avoir longtemps été un compagnon de route du stalinisme ? Je ne crois pas, non. On n'a parlé que de sa carrière, de son grand talent, indiscutable. Alors comme à chaque fois, deux poids, deux mesures, on ne s'y habitue pas. Un seul genre d'opinion a droit de citer ? Résister à ce triste conformisme est un devoir. Elle l'a fait avec élégance et courage toute sa vie.
Vous voulez pas faire juste un mea culpa là-dessus ?
Non,
vous
je ne fais aucun mea culpa. Oh, si j'ai dit les choses, c'est parce que je les ressens profondément.
Voilà, Brigitte Bardot, misogyne, réac, raciste, non. Entre autres péchés, elle a commis en effet un de ceux qu'on ne pardonne plus guère. Elle aimait passionnément son pays, le nôtre, son pays qu'on appelait France, vous vous souvenez ? Notre émission, donc, s'intitule fièrement « Les neiges du Kilimandjaro ». Et voici pourquoi.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Et voilà, cette phrase figure en exergue d'une nouvelle d'Hemingway, adaptée ici au cinéma, Gregory Peck, Ava Gardner. C'est la phrase mystérieuse qui hante ma vie. Qu'aller chercher le léopard à cette altitude ? Pourquoi nous dépassons-nous ou pas ? Pourquoi échouons-nous ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous parlons d'humour. Alors, y a-t-il un humour de droite ? Pour répondre à cette question existentielle, j'ai le plaisir d'accueillir le président à vie du groupe Jalon, Basile Coq. Bonjour Basile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et en duplex, en zoom, comme on dit maintenant, le réalisateur Laurent Firode. Bonjour Laurent.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Merci d'être là tous les deux. Je sais que l'un et l'autre, vous êtes contents d'avoir l'autre en interlocuteur. C'est rigolo.
Ah, bien sûr.
Vous ne vous connaissiez pas, mais vous faites connaissance par plateau interposé. Alors dites-moi Laurent, en 5-6 mots, enfin une phrase, ça existe l'humour de droite ?
Je dirais plutôt, est-ce que l'humour de gauche existe ? Moi, je crois pas, mais en tout cas, tout simplement. Donc, voilà, l'humour de droite, je pense que, oui, bien sûr qu'il existe. Je dirais même que, est-ce qu'il peut y avoir un autre humour, quoi ?
Bon.
C'est surtout ça, je me pose surtout cette question-là.
Je pose la même question à Basile Coq, parce que tous les deux, dans les registres différents, pour beaucoup de gens, vous l'incarnez un petit peu. Je crois même qu'il y a une interview une fois. Rectifiez-moi, Basile, on a dit de vous, attention, on croit qu'il est drôle, mais en réalité, il est de droite.
C'était Libé qui avait écrit ça, oui.
C'est génial, non ? Pas mal, Laurent, non ?
Ça va, ils sont formidables, c'est-à-dire qu'à gauche, ils nous font rire malgré eux. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un humour de gauche ? Je ne le pense pas, parce qu'ils sont quand même victimes de cet humour, en réalité. Ils ne le comprennent pas, et bien à droite, voilà, on le comprend et on en rit, en fait. Voilà, la différence majeure, elle est là. En fait.
Même question, vas-y, donc l'humour de droite, ça existe ? Vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Bien sûr, je pense comme le président Firode que c'est plutôt l'humour de gauche qui est comme le Dahu, qui n'existe pas vraiment.
On le cherche pourtant.
Et je crois que c'est lié à la nature même de la gauche, c'est-à-dire c'est le camp du bien, de la vérité, de la justice, de la beauté, du progrès. Et par conséquent, est-ce qu'on peut rire de ça ? Ah non.
C'est vrai.
Bah non, alors, c'est bon, nous sommes dans le camp du mal. Nous sommes la régression, la méchanceté, l'injustice et tout ça.
Et ça se voit.
Et par conséquent, nous avons le droit à ce rire sceptique. Nous sommes sceptiques à droite et eux, ils sont d'un utopisme qui aboutit à la terreur.
Ceux qui ne savent... Oula, vous allez loin quand même. C'est dès le début de l'émission, en 1793. Pour ceux qui ne savent pas bien ce qu'est Jalon, on va vous écouter, Basile, invité il y a un certain temps par Ardisson, et vous lui repréciser ce qu'était ce groupement que vous présidez à vie sans la moindre élection.
Alors Basile de Coq, tu es le fondateur du groupe Jalon.
Oui.
Alors quels sont les autres membres du groupe Jalon? Il y a ton frère, donc Carl Zéro.
Oui, oui, mais j'aimerais bien qu'on parle de moi d'abord. Je suis le président à vie.
Ah oui, d'accord.
Fondateur du mouvement. Et il y a Carl Zéro, mais il y a aussi beaucoup de camarades que nous avons recrutés dans les cafés, dans les bars, dans les saunas. Et nous sommes un groupe de jeunes de tous âges, de tous sexes et de toutes conditions et de toutes opinions.
Il y a plusieurs tendances. Il y a, oui, il y a Jalon gauche et Jalon droite, quoi.
Bien sûr. Et il y a aussi un centre, bien sûr.
Il y a un centre.
Alors, Jalon est la fusion d'un certain nombre de groupements d'origines diverses. Une aile droite dont tu parlais, qui est regroupée essentiellement autour de Nazisme et Dialogue, qui est un mouvement vigoureux mais qui a des difficultés parce qu'il y a deux tendances au sein de
Nazisme et Dialogue.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et, ils ont des, parfois, ça crée des difficultés.
Ben ouais.
Et le prochain congrès risque d'être animé.
Et l'autre, c'est Socialisme et Barbarie.
Socialisme et Barbarie.
À l'intérieur duquel il y a encore Socialisme et Barbarie.
Socialisme et Barbarie anime l'aile gauche, avec le groupe terroriste Septembre Nul.
Septembre Nul.
Il y a également un certain nombre d'organisations humanitaires qui font partie de notre mouvement, comme la Ligue pour la propagation du cancer, le mouvement... Le mouvement pour l'alphabétisation de la Bretagne, et le mouvement des paralysés de France. Et donc nous sommes une organisation très vaste et qui a des ramifications dans l'ensemble de la jeunesse française.
Ça, je suis sûr.
J'avoue que le mouvement des paralysés de France, je crois que c'est mon préféré, celui-là. Laurent Firode, avant de devenir le réalisateur dont on parle en ce moment, avec parfois l'effroi de ces petites capsules réactionnaires que vous mettez en scène, de petits coquins, vous avez fait au départ des films normaux, avec Audrey Tautou, avec Johnny Hallyday, des vrais films, si j'ose dire. C'est deux vies différentes.
Oui, alors, pas vraiment, parce que je continue à faire des films, hein, quand même. Donc, j'en fais toujours. D'ailleurs, je vais en faire un bientôt, là. Après, bon, donc, des films, bon, il n'y a pas eu vraiment de rupture à proprement parler, parce que moi, je viens principalement du court-métrage, où j'étais vraiment, vraiment libre dans les années 90, donc je faisais un peu ce qui me passait par la tête. Et ensuite, je suis rentré dans le système, enfin, on m'a fait rentrer. Mais j'ai toujours voulu garder cette liberté, donc je faisais toujours des courts-métrages à côté. Et après, quand on m'a sorti du système, à cause de mon grand âge, de ma blancheur de peau et de mes orientations sexuelles, je suppose, beaucoup, et également parce que je suis une grosse tête de con, ça, bon, ça, voilà, pardon pour le mot.
C'est beau d'être lucide.
C'est très, très beau d'être lucide, en effet. Donc, voilà, donc je me suis remis à... les deux pieds dans cette liberté, et donc voilà, j'ai fait ces sketchs, ces capsules.
On va en entendre quelques-unes.
Vous faites quoi pour les fêtes de Noël, vous?
Pour
les fêtes de Noël?
Bah, tu veux dire les fêtes de fin d'année?
Non, je veux dire Noël.
Ah, mais tu sais qu'on dit plus Noël depuis super longtemps. On est quand même dans un état laïque, je te rappelle.
Ouais, mais t'as des enfants?
Ouais, j'en ai deux, un garçon et une fille.
Ils vont quand même recevoir des cadeaux?
Bah, oui, évidemment. Pour mon fils Balthazar, j'ai prévu de lui offrir une poupée trans racisée en situation de handicap. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est livrée, la poupée, avec son fauteuil roulant et électrique. C'est trop chou, trop mignon.
D'accord. Et ta fille?
Un livre sur la mécanique quantique. Ouais, bah, c'est pour l'initier aux sciences dures, tu vois. Parce que c'est vrai que les filles, elles sont vachement sous-représentées dans ces filières.
Ouais. Elle a quel âge?
5 ans. Mais il faut s'y prendre tôt.
Ok. Et vous avez fait un sapin?
En papier recyclé. Et à la place de l'étoile, on a mis une éolienne.
C'est joli. Et vous avez fait une crèche ou...
Ah si, bah, les enfants, ils y tenaient énormément. Sauf que ça va t'étonner, mais j'ai gardé que les rois mages. Ouais, parce que là, ils vont représenter des migrants qui campent, tu vois, en attendant qu'on leur offre un logement. Ou des papiers.
Bien sûr. Ouais. Ok, bah du coup, je n'ose pas te parler de la messe de minuit. J'imagine que vous n'y allez pas.
Si, bien sûr.
Ah!
Enfin, moi, j'y vais pas. Mais ma femme, elle y va. Avec un collectif d'activistes. Elles vont entrer dans l'église, seins nus, et crier « Avortez Jésus !» Et moi, je serai dehors, à l'extérieur, tu vois, pour assurer la sécurité si jamais...
Ok.
Et toi, tu fais quoi?
Moi, je... Bah, écoute, non, moi, je vais juste fêter Noël de façon classique, enfin, je sais pas si je peux dire le mot, traditionnel.
Ouais. Alors, fais gaffe quand même, hein. Enfin, je veux dire, à ce que tu dis, parce que t'es nouvelle au bureau, et, enfin, je veux dire, la sale réputation, ça se construit quand même assez vite, donc...
Ah, d'accord. Bah,
enfin, c'est conseil d'amis, hein.
Merci.
Bah, joyeux solstice d'hiver.
Bah, à toi aussi, joyeux saucisse d'hiver.
Dites Laurent Firode, est-ce que parce que vous avez fait ces sketchs, parce que vous êtes au fond exaspéré par tout ça, et vous préférez le tourner à l'humour?
Exaspéré, oui, bon, en même temps, c'est aussi une façon de rire du monde réel. Donc c'est vrai qu'à la fois, il m'exaspère, bien entendu, il m'énerve, mais ils me font tellement rire aussi, donc je ne peux pas trop l'en vouloir non plus. Hein. Donc,
La source d'inspiration est permanente et elle augmente, non? Parce que ce type de comportement est de plus en plus fréquent.
C'est épouvantable, absolument tout le temps. Donc, les sujets, oui, bah, ils arrivent tous les jours. Hein, donc ça, c'est assez facile à trouver, en fait. Hein. Mais là où je suis plutôt étonné, c'est-à-dire que les humoristes, c'est vrai que ne s'approprient pas tellement cet humour-là qui est pourtant à portée de main. Quoi. Donc, il suffit un peu de regarder autour de soi... d'ouvrir les oreilles et les yeux, et voilà, il est là, quoi. Mais bon, les gens sont un peu frileux, ils osent pas trop.
Mais en fin de compte, c'est une version un peu moderne de ce que faisait il y a quelques temps déjà, je ne sais plus qui était cet auteur, Mordillat, peut-être les Brefs de comptoir, c'est un peu cet esprit, au fond.
Gouriot.
Gouriot. Hein, il y a de ça aussi, c'est-à-dire, c'est récupérer ce que vous entendez à côté de vous, vous avez les oreilles grandes ouvertes, et vous le tournez comme ça. Sauf que les gens ont changé de comportement. Donc on se moque plus des mêmes choses.
Non, en effet, non.
On se moquait sous Cabu, on se moquait du beauf, maintenant on se moque du bobo.
Voilà.
C'est l'évolution. Ouais. On écoute un deuxième petit sketch tout de suite, très court, sur un sujet crucial.
T'es raciste, toi? Pourquoi je suis raciste? J'ai plein d'amis noirs.
Je rêve! Non mais le vieil argument utilisé par tous les racistes, quoi. Moi j'ai aucun ami noir. C'est simple. Comme ça je leur impose pas ma présence qui pourrait être assimilée à du harcèlement.
Mais qu'est-ce qui te fait penser que je suis raciste?
Parce que t'es blanc, enfin c'est systémique, c'est comme ça, voilà. Tu peux rien.
Attends, toi aussi t'es blanc. Donc toi aussi t'es raciste?
Non.
Pourquoi non?
Bah parce que moi je t'ai accusé de racisme, donc je peux pas être raciste. Les vrais racistes n'accusent jamais les autres racistes. Ils se taisent.
Donc si je t'avais accusé avant?
Ah oui, mais je l'ai fait en premier, c'est comme ça, c'est pas de chance. Il faut toujours accuser avant d'être accusé. Comme ça tu risques rien.
Merci du conseil. Je m'en souviendrai.
J'étais en train de regarder pendant la musique quelques-unes des parodies, mais il faut absolument que vous les voyez, Laurent. Les parodies du Monde, donc le Monde, par exemple. Je prends n'importe quelle page au hasard, mais n'importe quelle ligne au hasard. Les livres du Monde. Alors, chez les éditions Ordurier-Forban, pour ceux qui ne reconnaissent pas, il y a donc Olivier Orban, ou un peu plus loin, un prix pacifiste poésie populaire a été créé par Clair Obscur, journal des espions communistes en France. C'est comme si c'était tout à fait normal. Et c'est à chaque ligne, comme ça ne s'arrête jamais. Et j'aimerais qu'on puisse encore se les procurer. On peut encore se les procurer ou pas?
C'est terminé. Il faudrait demander à l'éditeur une nouvelle édition à la suite de cette émission.
Ça serait pas mal, parce que vraiment, c'est un chef-d'œuvre, la typographie, tout est crédible. Il y a même des gens qui peuvent se tromper pendant une ou deux minutes, je pense, ne pas se rendre compte qu'ils sont en train de lire une parodie. Messieurs, il faut qu'on avance un peu. On parle de musique, ça va être très court, c'est une minute. Chez Jalon, je vous l'apprends, Laurent Firode, il y a deux hymnes, c'est la Marseillaise et l'Intersaillaise. Essayez de chanter les paroles de la Marseillaise sur l'air international et l'inverse. D'accord. Voici l'Intersaillaise pendant une minute, il faut se concentrer.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les gants sanglants élevés. Contendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 cassons.
Voilà, c'est l'Intersaillaise. C'est pareil, vous riez encore de vos petits méfaits comme un enfant. Hein. C'est pas mal, Laurent Firode, non? Et ça marche en plus.
Ça marche assez bien, c'est vrai.
Et la martionnale, c'est le contraire, mais il faudrait se concentrer. J'imagine les auditeurs de courtoisie qui arrivent à l'instant chez eux ou en voiture, qui entendent ça, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc, soyons très clairs, l'émission est une émission sur l'humour, et peut-être même l'humour de droite avec Laurent Férode, réalisateur notamment des films à l'arrache qu'on voit beaucoup sur YouTube, et puis Basile Coq, le président fondateur du groupe Jalon, célèbre entre autres pour ses parodies invraisemblables de journaux, tellement bien faites, tellement réussies, tellement parfaites. Je me souviens également de Franche Démence, on reconnaît le vrai titre. Et puis aussi, moi, mon préféré, j'adorais ce journal, c'était l'équipe que vous avez transformée en l'épique. Et c'est pareil, si vous voyez la lune, vous ne faites pas attention, vous pouvez ne pas vous rendre compte. Je me souviens de Tour de France, l'étape Nice-Strasbourg est un peu difficile. Et ça continue comme ça pour des pages et des pages et des pages. Et enfin, rappelez-moi, Basile, comment s'appelle la parodie de Point de vue, image du monde ?
Coin de rue, images immondes.
Ça marche à merveille. On réécoute un sketch de Laurent Férode. On a parlé du racisme, cette chose horrible, et on parle maintenant des problèmes dans l'entreprise.
Nous sommes une entreprise qui ne tolère en aucun cas les comportements inappropriés.
Mm-hmm. Bien sûr.
On vous a donc choisi parce que vous étiez le seul, hélas, qui avait les compétences. On aurait infiniment préféré une femme, quelqu'un de racisé, un handicapé, mais bon, on a fait avec ce qu'on avait. En plus... Vous êtes hétéro. Mmh. Vous cochez vraiment toutes les mauvaises cases. Bon, ici, on ne se fait pas la bise. Il n'y a aucun contact physique avec vos collègues, c'est clair?
Bah, on peut serrer la main, quand même.
Non plus.
Pas de problème.
Bien. Je veux juste m'assurer que les femmes seront en sécurité lorsqu'elles seront amenées à travailler avec vous, vous comprenez?
Bien sûr, bien sûr. Mmh.
Je vais vous faire passer un dernier test.
Ça a commencé, là?
Oui. Vous n'avez rien remarqué?
Précisons qu'elle boit un verre pendant ce temps-là.
Si, si.
Oui. Vous avez remarqué?
Ouais. J'ose pas le dire.
Dites-le.
Vous avez pas de...
Pas de...
Touillette dans votre café.
Je le prends sans sucre. Pourquoi j'aurais une touillette?
Vous avez raison.
Vous vous en êtes très bien sorti. Félicitations, vous êtes engagé.
Juste une petite question avant de travailler. Toutes les femmes dans l'entreprise sont habillées comme vous ou...
Faites très attention à vous.
Bien sûr.
Bon, pour moi, il n'y a rien au-dessus de mon tipiton, bien entendu. Que ce soit d'ailleurs... le coffret d'une dizaine de DVD de ce qu'ils ont fait à la télé, à la BBC.
Bien sûr.
Le Monty Python Flying Circus.
And now for something completely different. Aussi.
Yeah, c'est ça. Et, ou bien leur film. Les, bon, évidemment, pour moi, le préféré, c'est La vie de Brian. Je crois que la population préfère le Sacré Graal.
C'est ça.
Quant au sens de la vie, je trouve ça plutôt moins bien. Mais il n'y a rien au-dessus de Monty Python à mon goût.
Un humour qui vous plaît, ça aussi, Laurent Férode, de Monty Python?
Python, oui, non, j'allais les voir au cinéma quand ils sortaient, hein, à l'époque. Mais c'est vrai, je les ai pas revus. Alors, c'est vrai, je vais paraître un peu rabat-joie, mais c'est vrai que les films, pour moi, je préfère les films plus... émouvant, en fait, c'est idiot. On va se dire, mais il vient fou, le pauvre Férode, il est complètement gâteux. Mais voilà, quoi. Un film de long métrage en comédie, c'est vrai, j'y vais pas spontanément, quoi. Non.
D'ailleurs, vous êtes mortellement ennuyé, finalement.
Ouais, bah oui.
Messieurs, si quelqu'un a été novateur en matière d'audace, mais incroyable à tel point que moi-même, je suis presque gêné de diffuser ce sketch, je n'ai pas le recul que lui avait, je suis finalement premier degré, j'ai un peu honte, c'est Pierre Desproges. C'était quand même quelqu'un d'assez incroyable. Écoutez ce sketch de Pierre Desproges.
Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Mais non, je... Hein? Bon, mais enfin quand même, c'est... Je veux quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Ha ha ha. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irai pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays de France, où les Juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Puis attention, il y a juif et juif, hein. Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et il y a le juif juif. Mais c'est pas du tout pareil. Le juif assimilé, si vous voulez, c'est... Ou c'est n'importe quoi. Alors vraiment, c'est le genre de mec, il regarde l'Holocauste les pieds sur la table en bouffant du cochon pas cachère. Ouais. Il est infoutu de reconnaître le mur de Berlin du mur des lamentations. Ah non, lui, quand il voit un mur, il joue au squash. Hein, c'est normal. Ces gens-là sont la honte des synagogues.
Aucun sujet ne peut échapper à la dérision, vous pensez? Enfin, bon, tout peut être traité en dérision.
Tout à fait. Absolument, tout peut être traité, même je dirais tout doit être traité en dérision. Et voilà, quoi. Donc, si on commence à se dire « je suis gêné de rire »,
mais
c'est qu'on pas vraiment.
J'enfonce une porte ouverte, hein. Je suis banal, j'en ai conscience, mais et si ça fait de la peine à des gens?
Ah, bah, tout fait de la peine à des gens.
Basile.
Mais tu peux pas savoir le nombre de gens qui m'ont fait de la peine sans le savoir, et je ne leur en veux pas.
Exactement, c'est tellement vrai. Cette remarque est tellement juste, mon Dieu.
Est-ce qu'on vous dit parfois que vous ne voudriez pas faire ça, que finalement vous allez vous marginaliser, que c'est compliqué pour vous, ça va jusque-là ou pas? Vous vous sentez finalement libre?
De toute façon, moi je suis marginalisé depuis assez longtemps, donc après, et franchement, non, le seul challenge en fait pour moi c'était de me dire je sors du système et néanmoins est-ce que je peux faire ce que je veux et quand même bon, gagner un tout petit peu ma vie, j'y suis arrivé en été, donc en fait... Voilà, donc alors je ne gagne pas des milliers et des cents, mais ça me permet voilà de faire en sorte que les comédiens sont rémunérés. Moi-même, je suis rémunéré et je suis dans une liberté absolue, c'est-à-dire que personne ne me dit rien.
Bien sûr. Pour l'instant, vous diffusez YouTube, mais là, effectivement, Canal, est-ce que Canal va pas vous mettre certaines limites?
Non, pas du tout. Ils m'ont dit vraiment, tu nous donnes les sketchs, donc là, ils en prennent déjà 100. Il y a 100 qui vont arriver fin...
Vous écrivez tous les jours?
Ah, j'écris tous les jours. Là, aujourd'hui, par exemple, j'en ai écrit 3.
C'est appréciant cette cadence, non, Basile?
Ouais, surtout, vous allez dans le mur, vous allez vous retrouver à vous justifier devant l'ARCOM.
Je sais, ça c'est clair. Si ça peut faire un peu de promo.
Est-ce qu'il n'y avait pas eu, Basile Coq, quand vous avez fait chez Léon, il y a eu beaucoup de choses, on a parlé des pastiches, mais il y a eu d'autres choses. Est-ce que je me trompe, ou quand vous avez publié un pastiche du monde de Sophie, vous avez des problèmes avec l'éditeur du vrai ouvrage, c'est ça, hein, je ne me trompe
oui,
pas?
Oui, parce qu'ils ont...
livre de philo un peu basique, hein, le monde de Sophie, un peu cul la praline, disons-le, que vous avez parodié sous le titre de...
Le monde d'Anne-Sophie. Et,
très très chic.
En fait, la couverture, c'est la couverture qui nous a posé un problème finalement. L'éditeur a attaqué sur l'ensemble en prétendant que c'était une contrefaçon, alors que pas du tout, c'était un foutage de gueule, ce qui n'est pas la même chose. En revanche, le tribunal a estimé que la couverture ressemblait trop.
Et vous avez été condamné ou vous avez dû le retirer
Non, l'éditeur n'a pas voulu. Il a dit, puisque c'est ça, on le fout en l'air. Et moi, j'ai failli me foutre en l'air aussi, parce que j'étais très content de ce... C'était une œuvre.
Ah oui, ils l'ont mis au pilon, en quelque sorte. Le livre a été mis au pilon, comme on dit.
Exactement.
Retiré de la vente.
J'avais pas les moyens de le racheter, de le republier, de faire arracher la couverture et d'en coller une autre à la langue. Donc, j'ai rien pu faire. Je n'ai pu que le publier sous forme de roman photo dans le magazine Jalon.
Qui existait aussi défunt, parce qu'en plus des pastiches, il y avait le vrai magazine Jalon, d'une époque merveilleuse.
Le magazine du vrai et du beau.
Le magazine du vrai et du beau. Dans les films français drôles ces dernières années, je pense que OSS 117 était une réussite quand même. Non, c'est drôle ça. Ça vous a fait rire ou pas, OSS 117, vous?
J'en ai vu qu'un seul. Ça ne m'a pas tellement fait rire.
Oh là là, mais que vous êtes rasoir.
Oh, le rabat-joie épouvantable.
Un film comique de Laurent Firode.
Scandaleux. Sortez.
Erreur de casting. Je reçois un petit mot, c'est drôle, de quelqu'un qui souhaite garder l'anonymat. Voici donc son nom. Il vous demande à vous. Merci. Vous m'engagez pour vos sketchs. Il me demande, Laurent Firode, est-ce que votre film M comme Macron, ça se précise? Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Ah bah si, parce que là, j'ai lancé une cagnotte il y a à peu près deux mois pour. Je vais faire un film sur Emmanuel Macron. Donc, je commence à tourner très très bientôt là. Là, comme j'ai eu quelques soucis de santé, donc ça a dû le repousser. Mais non, là c'est sûr, je vais commencer à tourner très très vite, le film est complètement écrit, le casting est carrément clos, donc on va le tourner, et il sortira, je pense, en avril.
Donc film parodique.
Ouais, tout à fait, ça s'appelle Jupiter 2, Le Retour.
Je vous rappelle qu'on m'avait dit tout à l'heure que c'est difficile d'être comique sur la distance, sur un long métrage, alors comment vous allez faire,
hein? Ah bah ça c'est mon petit secret, c'est-à-dire que... après, parce qu'il y a plusieurs histoires, plusieurs personnages... avec beaucoup de quiproquos, donc on arrive à faire... Je ne sais pas si vous aviez vu ma trilogie Le
oui,
Monde d'Après.
Le Monde d'Après, bien sûr.
Voilà, donc... sur le
film à sketch.
Film à sketch, tout à fait. Donc c'était sous forme de long-métrage, mais des films à sketch, comme à la grande époque du cinéma italien. Donc là, c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir des films, voilà, des films vraiment en comédie, mais en même temps, pour qu'il n'y ait pas cette lassitude de se dire, voilà, on est là juste pour rigoler. Donc j'aime bien alterner, voilà, comédie, plus à un moment donné un peu plus émotion, après on retourne à la comédie, voilà, pour faire un peu comme, voilà, attention,
compris.
Je ne sais pas, mais comme un peu Chaplin, bien sûr, donc, qui pouvait mêler la comédie.
Charles Chaplin, Laurent Firode, filiation directe. dites-moi, je voudrais 40 secondes de plaisir quand même, du jardin qui fume le narguilé au SS 117 et qui dit des énormités à son interlocuteur égyptien.
Sinon, pour revenir à ce que vous disiez là sur la situation d'Égypte, là... Développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein.
Plaît-il?
Ben rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. Hein. On est en 1955, les gars, faut se réveiller, hein. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, ça. Il s'agirait de grandir, hein. Ça, je dirais de grandir. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Et c'est, on n'a jamais les bons papiers.
Ça fait.
Les couples dans la pub, ça a beaucoup évolué. Vous avez noté Laurent Firode. Ça m'a fait tellement plaisir que vous l'ayez remarqué, parce que moi, je suis gêné de le remarquer, mais je le remarque chaque fois. Les couples dans la pub sont devenus très particuliers.
Est-ce que tu as remarqué que dans les pubs, les couples sont presque toujours composés d'un homme noir avec une femme blanche? Pourquoi ils font ça, à ton avis?
Bah, c'est pour montrer que la société, elle n'est pas raciste, qu'on vit dans un monde où le racisme n'a plus sa place. Voilà, ça envoie un message, en fait. Ça veut dire qu'un homme noir, il est avec une femme blanche, et alors, il n'y a aucun souci.
Ouais, non.
Ouais, quoi?
Ouais, non, et non. Non, je crois pas que ce soit ça le message, non.
Mais c'est quoi le message alors?
T'es d'accord avec moi que dans les pubs, on ne voit que des personnes issues de la classe aisée socialement, non? Enfin, je veux dire, on ne voit pas de pauvres.
Mais ça, c'est sûr, on voit pas de pauvres, ouais.
Et bah, que les hommes noirs, quand ils sont riches, ils préfèrent se mettre en couple avec des femmes blanches. C'est ça que ça envoie comme message, c'est ça que ça veut dire.
Putain, mais t'as raison. Mais en fait, c'est hyper sexiste et raciste envers les femmes noires. Et envers les pauvres.
Oui, mais ça va, parce que pour l'instant, personne ne le voit.
Ah ouais, parce qu'on est tous trop cons, en fait.
Voilà, le sketch a plusieurs étages, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je reçois un petit... Nous recevons ici à Radio Courtoisie Laurent Firode un petit message qui nous dit quel plaisir d'entendre Laurent Firode. Ah bon? C'est le dieu. Excusez-moi, c'est pas pu m'empêcher. Et qui dit c'est le dinorisi de notre époque. Pas mal comme comparaison.
Bien, ça me flatte beaucoup.
Et elle garde aussi, cette jeune personne, un bon souvenir du groupe Jalon ainsi que du livre Histoire de France de Cro-Magnon à Jacques Chirac. Ouais. Merci messieurs, je pense que de loin le plus drôle de nous trois, c'est moi, mais personne ne le savait jusqu'à cet instant. Laurent Firode, merci infiniment, bravo pour tous ces sketchs qui nous font rire bien sûr et qui nous soulagent aussi. On se dit mon Dieu, je ne suis pas seul à trouver que ce monde est grotesque. Merci de l'énoncer comme ça, bravo, et on attend le film sur Macron dans quelques mois avec impatience. Merci, j'espère que tout va bien, Laurent Firode. Merci beaucoup. Et Basile Lecoq, vous avez du travail. Il faut finir le manuscrit sur l'anthologie de Jalon. C'est du passé, mais ça nous fera rire. Faites-le. Vos admirateurs en ont besoin et envie.
Très bien, j'y vais tout de suite.
Radio Courtoisie. Toutes les droites, tous les talons.
En octobre, nous avons reçu ici Patrick Chauvel, photographe de guerre, cinéaste, qui mène depuis plus de 50 ans une vie incroyable d'aventures et de risques. Parmi ses maîtres, un personnage absolument prodigieux, aviateur et académicien, journaliste et romancier, infatigable bourlingueur et auteur prolifique, Noctambule aussi, pour moi, un des auteurs majeurs du XXe siècle à qui nous intéressons aujourd'hui, Joseph Kessel et Hubert Boukhara, vous avez sur nous tous, et je suis très jaloux de ça, un avantage énorme, vous avez été l'ami de Jeff, comme on le surnommait.
De Jeff, absolument.
Avant de raconter les circonstances et de votre rencontre, qui ne sont pas banales du tout, je voudrais qu'on écoute un tout petit peu Joseph Kessel nous définir au fond un peu ce qu'il est.
L'exigence, c'est une seconde nature, sauf quand il y a une raison majeure, comme le besoin, ça, je vous dis, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, c'est tout, d'écrire un livre qui demande du temps. Quand je ne voyage pas pendant 3 ou 4 mois, je me sens mal à l'aise. Je ne sais pas d'abord pourquoi, je ne m'en rends pas compte. D'un coup, je me sens mal à l'aise, mal dans ma peau, et c'est alors que je m'aperçois qu'il y a 3, 4, 5 mois que je n'ai pas bougé, et il faut que je parte.
Et il faut que je parte. Il est parti toute sa vie, des reportages partout. Irlande, Afghanistan, Birmanie, je le dis dans le désordre, l'Éthiopie, partout, partout, partout.
Alors à 20 ans, il avait déjà fait 2 fois le tour du monde.
C'est ça, c'est fou. Ouais. Mais quand vous l'avez connu, c'était un peu la fin de cette grande période de voyage.
Alors quand je l'ai connu, j'avais 16 ans, lui en avait 70.
Racontez-nous comment vous l'avez connu, c'est une histoire incroyable.
Alors l'histoire, si je dois commencer, enfin la genèse de cette histoire... C'est un jour où j'étais avec ma mère au marché. Il y avait dans le marché, il y avait un bouquiniste qui avait un étal avec des caisses de livres et des livres posés comme ça. Et il y en a un qui a attiré mon attention. Alors j'avais 12 ans et quelques mois, quoi, là, à ce moment-là. Il y a un livre qui attire mon attention, non pas pour l'auteur que je ne connaissais pas encore,
j'imagine,
mais parce que la couverture était joliment illustrée.
Et le titre ?
L'équipage.
Ah, le fameux.
Le fameux. Son deuxième titre dans la chronologie. À 16 ans et des bricoles, je décide de rencontrer ce personnage. Donc on se moque beaucoup de moi autour de
mais
moi.
Mais non, pourquoi il faut... La chance sourit aux audacieux.
Alors j'avais quand même lu à peu près les 2/3 de l'œuvre, c'est-à-dire une soixantaine de
oui,
titres.
Oui, parce qu'il y a 80 titres, je crois. Ou
88.
Pas. 88 titres, ouais, Joseph Kessel. Ouais, ouais. C'est prolifique.
Moi, j'ai écrit dans des grands cahiers d'écoliers et je parlais de ses livres.
Vous commentiez son œuvre, en quelque sorte.
Ouais, je commentais ses livres dans la chronologie de parution. Et j'ai rempli 3 cahiers, comme ça, des grands formats, et je m'étais réservé pour moi la dernière page du 3e cahier, du dernier cahier.
Donc, vous vous adressez à lui, en quelque sorte.
Oui, je m'adresse, et j'explique qui je suis. Donc, je prends le téléphone, je fais « Allô, je dis, bonsoir, êtes-vous Hubert Boukhara ?» Je dis « Oui, monsieur. » Il dit « Je suis Jeff Kessel. » Donc on est un peu scotché quand même.
J'imagine.
Ouais.
Il vous donne rendez-vous.
Et donc on échange quelques mots quand même. Il me demande ce que je veux. Et je dis ce que je veux, c'est, je vous le dis à la fin, c'est pouvoir se rencontrer. Il dit oui, d'accord, mais pourquoi faire? Pour parler. Parler de la vie, parler des livres, des vôtres, de ceux des autres. Et il me dit, vous êtes journaliste.
J'ai monsieur, non, monsieur,
non, monsieur, j'ai 16 ans et je suis lycéen.
C'est génial. Voilà. Ça ne l'a pas effrayé.
Non, il me dit, ah. Je crois que celle-ci, on ne me l'avait pas encore faite.
C'est très bien, j'adore. La jeunesse de Kessel, on continue l'histoire après, mais j'aime bien entendre sa voix. Il est né en Argentine, par hasard, en 98, mais très vite.
Ah, pas tellement par hasard.
Enfin, je simplifie un peu, il n'y est pas resté longtemps en tout cas.
Non.
Et il est retourné à la Russie familiale, près d'Orenbourg. Écoutez-le parler de cette région d'Orenbourg.
J'ai vu, avant de savoir ce qu'était une automobile,
des caravanes qui venaient du Turkestan, de Samarcande, avec leurs chants, leurs mélopées, avec les caravaniers qui étaient des Kirghizes, des Tatars, des Kalmouks, et qui se rendaient à la cour d'échange. C'était le troc. Les nomades apportaient des peaux de mouton, apportaient du thé, qu'ils échangeaient contre des samovars, contre des objets manufacturés. Et puis, il y avait cette immense liberté, cette steppe qui sentait l'absinthe. Et je suis sûr que ça a eu sur ma vie une influence déterminante.
Une influence déterminante, cette jeunesse et ces paysages incroyables. Voilà, on revient juste sur la fin du début, si j'ose dire, de votre histoire. Vous vous rencontrez et une amitié, malgré l'écart d'âge, se crée entre vous.
Voilà, on se rencontre... C'était un mercredi, c'était le 15 mai 1968.
Non, je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas à ce point-là.
Si. À 11h du matin.
Et où était-ce ?
À devant l'Institut, sur le parvis. À l'époque, c'était même un parking, il y avait quelques voitures. Et c'était là. Donc, moi, je suis arrivé un peu plus tôt, 11h moins le quart, pour ne pas le louper. Et à un moment donné, je le vois arriver, donc je n'étais même pas impressionné.
C'est vrai ?
Ouais, même pas.
Vous étiez à l'aise ?
Ouais.
Et donc, lui ?
Aussi. Et il vient directement vers moi. Forcément, je devais être le seul type
adolescent, devant l'ambassade, l'Académie française.
Devant l'Académie française, il me regarde de toute sa hauteur et me dit « Toi, tu dois être Hubert Boucara ?» Ah, je dis « Oui, monsieur Kessel. » Voilà, donc ça démarre comme ça. Il me dit « Bon, tu veux quoi exactement ?» Bah, je dis comme je vous l'ai dit au téléphone, comme je vous l'ai dit dans les cahiers, hein, c'est se rencontrer et puis
bien sûr.
Et se découvrir. Alors il me dit « Bon, on va traverser. » Donc on est allé en face chez les bouquinistes, et il me montre des livres, un coup je connaissais, 10 coups je ne connaissais pas.
Bien sûr.
Ah, il me dit, mais tu ne connais pas Macorlan?
Pierre Macorlan, c'est formidable.
Pas encore, j'ai 16 ans, ça
Quai
va venir.
Quai des Brumes?
Ouais.
L'étoile matutine?
Ouais, absolument, voilà. Donc voilà, donc, et puis à un moment donné, je vois des livres, j'y dis, par contre, lui, là, je le connais, c'était mon Fred.
Bien sûr.
Il me dit, mais tu sais que c'est un copain, moi? Ah, je dis, oui, je sais.
Oui, les gens ignorent parfois que mon frère est devenu écrivain alors que c'était un aventurier sous l'impulsion de Kessel qui lui a dit « Mais tu peux écrire, tu sais le faire. »
Ben bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, on a cette première journée s'est passée à parler beaucoup parce que lui, très curieux, posait beaucoup de questions, moi aussi. On posait des questions, on est allé boire un coup à l'angle du quai Voltaire et de la rue du Bac. Il y a une brasserie qui s'appelle La Frégate.
Oui, je vois, elle existe toujours d'ailleurs.
Elle existe toujours. Les moins jolis qu'avant, mais bon. Et voilà, donc, le garçon arrive et là, il me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et moi, je réponds, tout simplement, je dis, je sais pas, un coca. Il me dit, un coca, mais t'es sûr?
C'est pas son genre, effectivement. Mais il était quand même tôt, d'autre part.
Voilà, donc, il me dit, alors, un Coca-Cola pour le jeune homme et puis une double vodka pour moi.
Non, à 11h du matin?
Ouais,
il est fidèle à sa légende, dites donc.
Ouais.
Combien d'années d'amitié?
11. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. 23 juillet 79.
Pour rappeler à ceux qui nous écoutent, qui était Jeff, on l'appelle comme ça, hein, Joseph Kessel, Jeff, un écrivain prolifique, 88 livres, mais au départ, un journaliste avec des enquêtes incroyables. La plus marquante de toutes, ce n'est pas la première, c'est 1930, je crois, c'est celle sur la trace des marchands d'esclaves. Il y en avait encore à l'époque.
Alors ça, c'est 1930.
C'est difficile, puisque, en principe, les États que je devais parcourir faisaient partie de la Société des Nations et avait renoncé à l'esclavage. Mais cet esclavage existait bel et bien, et j'avais besoin d'une clé, pour ainsi dire, pour découvrir tout ce qui se cachait sous une apparence innocente, et cette clé m'a été donnée par un extraordinaire aventurier dont tout le monde connaît le nom, mais qui à l'époque était inconnu, et qui est Henri de Monfray. Je l'avais rencontré par hasard à Paris, et nous sommes partis ensemble pour la mer Rouge, où il m'a prêté son bateau et où, dans ses propriétés d'Abyssinie, j'ai vu un nombre considérable d'esclaves.
Son premier livre, c'est 1922.
Oui, 24 ans. 23,
donc, 24. Il a 24 ans. C'est La Steppe Rouge.
Et il était resté très jeune lui-même,
ouais,
mentalement.
Et donc, ce livre a un succès considérable à l'époque. Et Gaston Gallimard, son éditeur, lui dit « Bon, il faut enchaîner tout de suite. Pour faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. » Donc il va faire l'équipage.
Mais toute sa vie, il a eu cette méthode, me semble-t-il, l'expérience vécue, éventuellement le rapportage, et puis le livre, l'aviation, où il est dans l'aviation, puis
souvent
l'équipage. D'abord, ensuite, on parle, l'exemple typique ici, c'est le voyage sur la trace des marchands d'esclaves, ça devient le livre Fortune Carrée.
Fortune Carrée.
C'est arrivé assez souvent, cette méthode-là.
Ouais, alors il a fait ça pour d'autres livres. le jeu du roi qui deviendra les cavaliers.
Et le Buscacci, le jeu afghan. Voilà.
La piste fauve, qui c'est le lion.
C'est le lion, bien sûr.
Évidemment.
Son plus grand succès. À mes yeux, pas le meilleur livre de sa carrière, mais son plus grand succès.
Mais lui-même le disait.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bah je suis un peu
ravi
alors.
À l'époque, Gaston Gallimard lui dit, tu sais Jeff, je t'aime beaucoup et... Ça fait 2 ans que tu sors rien du tout et je continue à te donner des avaloirs. Ça serait bien que tu fasses quelque chose. Il dit, je vais faire quelque chose. Donc, il prend ce livre, La Piste Fauve. Il va utiliser l'équivalent de moins de 2 pages. Il va faire le lion.
Et l'amitié là, entre une petite fille et un lion.
Voilà. Et là, la performance de Jeff, c'est qu'il l'écrit en 48 heures.
Mais non, non, si, non, non, si. Non, non.
En 48 heures.
Ouais, c'est pas possible.
Il connaissait tout, déjà. Si, sans blague. Et il donne le manuscrit à Gaston Gallimard. Il dit, écoute, je t'ai fait ça, ça sera pas mon meilleur livre. Gaston Gallimard consulte ce manuscrit. Il lui dit, ça sera pas ton meilleur livre, mais on le fait.
Et c'est la plus grosse vente.
Alors, un an plus tard, ça paraît en mai 58. En mai 59, on est à 1 770 000 exemplaires.
Un personnage étonnant, mais il n'est pas question de le réduire du tout au noctambule, mais ça fait partie de sa vie. C'est quelqu'un qui a créé, c'est quelqu'un qui a rapporté des faits, qui a été un romancier de fiction et un reporter. Et dans ses nombreux reportages, il y en a un avant-guerre où il voit de très près le chancelier.
J'ai vu monter sous un orage d'acclamations, dans une espèce d'hystérie, de délire passionnel, un homme à figure très pâle, le nez en l'air, une petite mèche sur le front, habillé d'une façon quelconque, et qui vraiment ne semblait pas justifier cette espèce d'idolâtrie. Et puis il s'est mis à parler.
Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht, ungeheure Wohnhauskolonien, sie werden entstehen.
Et alors là, j'ai été déçu encore davantage. La voix était criarde, coupée. Il ne disait que des banalités, des choses très vagues, et chacune de ses phrases soulevait l'enthousiasme. Et peu à peu, il s'est mis en transe. Et alors là, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'il exerçait sur son public. Il était tellement infatué, amoureux de lui-même, tellement persuadé de son propre magnétisme et de son propre pouvoir, que peu à peu, il le communiquait aux autres. Et à mesure qu'il criait « Moi, 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 l'Allemagne c'est moi, l'Allemagne c'est vous, moi, vous, je ferai de vous l'Allemagne et je vous entraînerai à ma suite vers les grandeurs », il les intoxiquait complètement et exerçait sur eux une espèce d'hypnotisme.
C'est Joseph Kessel qui résume un meeting d'Adolf Hitler auquel il a assisté de très près et c'est bien résumé le personnage, non ?
Ouais, ça c'est 1932. Mm-hmm. C'est au moment où il fait un reportage qui s'appelle « Bafon ».
Oui, c'est ça. Il n'est pas encore... C'est 33, l'accession de Hitler au pouvoir. C'est avant qu'il devienne chancelier, 30, juste avant.
Ouais, 32. Donc, il est introduit dans les milieux de la pègre berlinoise. Il a été présenté lui-même comme étant un caïd parisien. Sinon, ça ne marchait pas.
C'est ça.
Et donc, il a assisté à un ou plusieurs meetings avec Hitler.
Mais il a toujours cette objectivité étonnante, il ne cède pas à l'invective. Il dit juste, c'est un homme qui ne m'impressionne pas, il ne définit pas, comme ce serait facile de le faire 30 ans après, un personnage épouvantable, maléfique. Non, il est plus factuel que ça.
Ouais, complètement.
D'ailleurs, c'était pas un militant de quoi que ce soit, d'ailleurs. Quelles sont ses opinions politiques? On les connaît à peine.
Alors
bah, contre le nazisme, évidemment, bien sûr, mais à part ça.
Contre les bolchevaux aussi.
Contre les ?
Les bolcheviks.
Ah, les bolcheviks, pardon. Ouais. D'accord.
Il n'aimait pas les bolcheviks. Hein.
Oui, et pour cause.
Ah, il l'a beaucoup écrit quand même.
Oui, c'est vrai.
Dans ce qu'on appelle la période russe de Kessel, il ne fait pas de cadeau aux bolcheviks.
C'est vrai.
Dans Nuit de Sibérie, c'est d'une violence inouïe. Le récit est remarquable. Mais c'est très violent. Les rois aveugles, c'est pareil. C'est intéressant, parce que c'est un roman historique où il parle de la fin des tsars. Et dans toutes les nouvelles et contes de ce qu'on appelle la période russe de Kessel, en fait, c'est très anti-bolchevique.
Mais Romain Gary, par exemple, qui a été presque un ami pour lui.
Hein, ils étaient très proches.
Voilà, Romain Gary ne se cachait pas d'être un gaulliste jusqu'au boutiste, militant. Mais c'est pas tout à fait le cas de Jeff.
Jeff était gaulliste. Il était très proche de De Gaulle. Mmh. Il se connaissait très
oui,
bien.
Oui, je me souviens avoir vu des lettres de De Gaulle. Je lui écrivais « Mon cher maître » en le remerciant d'un livre qu'il avait écrit.
Ouais, ouais, mais j'ai vu des lettres... très intéressante de l'un à l'autre. Ah oui. Donc, non, il s'appréciait beaucoup. Alors, Gary, lui, revendiquait le gaullisme.
C'est ça.
Ouais.
Il était à la colombée des églises, ouais. Le jour de l'enterrement, ouais. Avec son, ouais, petit battle dress.
Ouais. Mais dans son uniforme.
Un peu serré.
Ouais, exactement. C'est ça, ouais.
Et une écharpe rouge assez bizarre. Ouais. Mais vous, Hubert Boucara, vous tenez cette librairie qui s'appelle La Rose de Java, en hommage à votre ami Jeff Kessel. Pourquoi cette librairie s'appelle comme celle-ci?
Alors, parce que le jour de mes 22 ans, il m'a offert le manuscrit de ce livre. Que j'ai toujours.
Non, merveilleux.
Il est rangé précieusement chez moi.
Curiosité d'amateur, c'est très raturé, ça part dans tous les sens ou...
Alors, pas au départ, mais il y a des moments où il y a plus de ratures. Alors, par contre, il y avait quelque chose de bien. Une caractéristique, c'est que. Il avait une écriture extrêmement petite, comme je dis souvent, inversement proportionnelle à son
talent.
À son physique.
À son physique, c'est ça.
À son physique. Autant lui était grand et massif, costaud, il avait une écriture qui était extrêmement petite. Alors à tel point que pour lire un manuscrit, moi je suis obligé de prendre une loupe. Voilà, je suis obligé d'utiliser une loupe ou alors de scanner la page en un peu plus grand.
N'oublions pas qu'il est né russe, qu'il est resté en Russie jusqu'à ce qu'il arrive à Nice, je crois vers 8 ou 9 ans, mais qu'il est devenu un auteur français, plus que francophone, sanctifié par l'Académie française. Quel parcours incroyable pour ce, comme il se définit lui-même, ce petit juif d'Europe de l'Est.
C'est ce qu'il disait quand il est rentré à l'Académie française.
C'est ça.
Vous accueillez en votre sein un juif d'Europe orientale.
Oui, pour remplacer le précédent qui avait son fauteuil, c'était le duc de la force.
Duc de
l'incarnation
la force.
De la France traditionnelle. Ouais. Il dit, pour le remplacer, vous avez, ouais, choisi un juif de l'Est.
Absolument.
Et c'est un très beau texte.
Ouais, ouais. Donc ça, c'est dans son discours d'entrée. Ouais.
Épée dessinée par Cocteau, ça c'est magnifique aussi, l'épée d'académicien.
Ouais, et réalisée par Cartier.
Ouais, c'est chic. Si vous arrivez maintenant dans l'émission, sachez qu'il faut arrêter toutes affaires cessantes, tout. Il faut parler de Joseph Kessel avec nous pour le faire. Hubert Boucara, qui est son ami, qu'il a rencontré alors qu'il avait 16 ans et Kessel plus de 70, et qui a passé une dizaine d'années de compagnonnage très proche. Et comme je l'ai dit une fois ou deux déjà, nous sommes tous très jaloux de cette chance qui a été la vôtre, de commencer votre existence de jeune adulte avec des personnages comme ça, parce que j'imagine que Kessel vous présentait ses amis, qui étaient tous assez étonnants aussi.
Alors oui, il y avait une ribambelle de personnages que j'ai rencontrés grâce à lui, avec qui je suis devenu, pour certains, un peu copain.
Quelques exemples, peut-être, pour qu'on...
Ben, Romain Gary.
Ah, vous l'avez connu aussi, Gary?
Ouais, 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 ah. Gary. Mais alors, il y avait un phénomène génial, c'est qu'il y avait, d'un côté, il y avait l'univers de Kessel, qu'on appelait le cercle kesselien. Et à côté, il y avait un autre univers, c'était celui de Brassens. Et entre les deux, il y avait un lien. C'était un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est Louis Nocera.
Oui, un écrivain niçois.
Un écrivain niçois, mais aussi parisien, parce qu'il habitait les deux. Et Louis faisait le lien entre les deux univers. Donc on passait d'un univers à l'autre. Donc il y avait...
Attendez, vous êtes en train de nous dire que Kessel connaissait Brassens?
Ouais.
Mais c'est fou ça, je l'ignorais complètement.
Alors Brassens, Boudard, René Fallet.
Mais alors Brassens qui incarne une espèce de liberté un peu anarchiste en quelque sorte, alors que Kessel finalement a été un patriote combattant, c'est pas tout à fait la même vision du monde.
Ouais, mais il s'appréciait.
Mais j'imagine. Ils sont tous des gens très chaleureux en tout cas.
Alors chaleureux, bienveillants, et puis il y avait aussi un autre que j'aimais bien, mais il était un peu insupportable parce qu'il était bourré tout le temps, c'est Blondin.
Ah, bien sûr, Antoine Blondin, hélas.
Antoine Blondin. Oui. Donc, tous ces gens... Ah, il y avait aussi une autre personne, c'était Barbara, qui était très proche de Brassens.
Mais vous aviez 18 ans, 17, 18, 19, 20, vous côtoyez des gens passionnants d'un très haut niveau. Est-ce que vous en aviez alors conscience de ce privilège?
Alors oui, mais je trouvais ça presque normal.
Au bout d'un moment, oui.
Ouais, je trouvais ça... Parfois, je me disais, tiens, pourquoi je suis avec tous ces gens?
Parce que vous étiez le seul de votre âge, au milieu, ouais, de tous ces, voilà, grands,
alors,
largement
j'étais,
adultes.
J'étais un peu le candide de l'histoire.
Bien sûr.
Et puis, j'étais un peu aussi le protégé. Alors, le truc commun qu'ils avaient, tous ces gens, c'était la bienveillance. Gentil.
En termes de caractère, en,
ouais,
termes de vie, c'est des créateurs.
Oui, des créateurs, mais en termes de vie, c'est des gens bienveillants, accueillants, généreux, altruistes.
Mais pardonnez-moi, je vous pose une question un peu intime, vous n'êtes pas forcé de m'y répondre, enfin, faites comme vous le souhaitez. Côtoyer des gens d'un tel niveau, est-ce que ce n'est pas à la fois un peu exaltant, mais aussi un peu écrasant? Est-ce qu'on ne se dit pas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la hauteur de ces gens-là?
Non, parce que j'y pensais même pas.
C'est ça.
Et puis je participais. Quand on était autour d'une table, c'était souvent le cas, des grands, des grands dîners, des grandes tables d'une quinzaine de mètres, avec plein de monde autour.
C'est très masculin l'univers que vous décrivez, non, vous parlez que d'hommes.
Il y avait des femmes. Barbara.
Oui, c'est vrai, pardon.
Mireille d'Arc.
Mireille d'Arc.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle faisait là?
Bah, elle était amie avec plein de ces personnes.
D'accord.
Ouais. Et puis les femmes des uns et des autres.
Mmh. Vous avez connu, donc, vous, la dernière femme de Jeff.
Michel, ouais.
C'est la seule que vous avez connue.
Alors, qui était dure à vivre, quand même.
Je crois.
Ouais. Parce que, bon, elle était très alcoolisée, et puis, elle lui en voulait. D'être trop célèbre. Parfois, elle l'insultait par rapport à ses origines.
Juive ?
Ouais.
Oui, publiquement, je crois, en plus. Vous avez été témoin de scènes...
Chez lui.
C'est ça.
Chez lui.
Ouais. Comment est-ce qu'un homme de son charisme supportait ça?
Ça se terminait tout le temps, dire mon garçon, et si on y allait?
Et vous partiez du coup?
Et on partait.
Ouais. Kessel n'est pas qu'un octambule, hein, je tiens à le dire, on n'est pas qu'un alcoolique, loin de là, on parle de ça de manière festive, mais c'est aussi un homme très courageux. Et donc nous l'avons évoqué tout à l'heure avec Alexandre Foulon, il faudrait quand même l'entendre maintenant, ce fameux chant qui est devenu le chant de la résistance française. Donc c'est une musique russe traditionnelle, et c'est les paroles de Kessel et Druon, c'est le chant des partisans.
Le cri noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs, à la balle et au couteau, très vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au crédit y font des rêves. Si nous vois-tu, nous marchons, nous tuons, nous crèvent. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Le chant des partisans, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon en sont les auteurs. Ils l'ont composé pratiquement à la demande du général de Gaulle pendant la guerre, alors qu'ils étaient à Londres. Nous parlons de Kessel, aujourd'hui dans les neiges du Kilimandjaro, un journaliste, un écrivain, un aviateur, un homme d'action, un romancier, quelqu'un qui a une vie absolument trépidante et impressionnante. Pour en parler avec nous, Hubert Boukara, qui a eu la chance, qui est libraire. Et votre librairie porte le nom du manuscrit que Kessel vous a donné, La Rose de Java. Vous tenez cette librairie depuis longtemps, mais je crois, hélas, enfin, je peux dire ça, que vous allez bientôt arrêter.
Ouais, j'arrête, c'est fini.
Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas fâché?
Non, je suis pas fâché, je fâche avec personne.
Non, bien sûr.
Mais non, j'arrête parce que j'ai l'âge d'arrêter. Et puis, ça fait 38 ans que je fais ce métier. Mmh. Ça y est, quoi.
Vous avez fait tout à fait autre chose avant, je crois, en plus.
Alors, j'ai fait des choses très différentes qui n'ont rien à voir, parce que j'ai été ingénieur en électronique.
Effectivement, rien à voir.
Mais après, j'avais un rêve de gosse, c'était un jour de devenir libraire, ce que j'ai réalisé.
Au passage, on peut dire un mot, on anticipe un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que je me trompe? Est-ce que sa mort si rapide, à l'évrisme, je pense, en un instant, chez lui, tranquillement, n'est pas une belle mort pour quelqu'un comme lui? C'est magnifique.
Bah, c'est la plus belle.
C'est ça.
Je pense.
Il ne s'est pas dégradé.
Il était devant la télé, parce qu'il avait un rituel, c'est qu'il fallait qu'il écoute le journal, le JT de 20h, à la télé. Et il était sur son fauteuil, c'était le sien et personne d'autre, un gros fauteuil et des accoudoirs en tête de lion. Forcément, c'est le sien. Et il s'est assoupi, il s'est pas réveillé.
Vous n'étiez pas là?
Si, on était dans le jardin.
Vous étiez là physiquement, le jour de sa disparition?
Pas que moi.
On était, non, on vous
était,
étiez là.
On était plusieurs. C'était au mois de juillet, c'était l'été, il faisait beau, on était dans le jardin, on jouait aux cartes, et puis à un moment donné, quelqu'un arrive, il dit « Bon les gars, faudrait vous calmer un peu ». Et moi, en plaisantant, je dis « Pourquoi il y a une guerre ?» Il dit « Il n'y a pas une guerre, mais il y a Jeff qui vient de nous quitter ».
Non, je ne savais pas que vous étiez là.
Alors ça jette un froid.
Oh, j'imagine, quelle scène incroyable.
Donc il s'est endormi, il s'est assoupi, et il ne s'est pas réveillé, il avait la cigarette qui continuait à se consumer.
Un homme d'action comme lui ne pouvait pas mourir en se dégradant, il est mort en un éclair. Comme le général de Gaulle, exactement dans les mêmes conditions, absolument.
Mais je pense que c'est la plus belle mort.
Bien sûr.
Pas de maladie, pas de souffrance, pas d'hôpital, pas rien quoi.
Est-ce que vous l'avez vu en train d'écrire physiquement ?
Ouais.
Et est-ce que, alors je vous pose une question intime là encore, est-ce qu'il vous est arrivé d'assister au processus de création et vous dites tiens, aujourd'hui j'ai fait 3 pages,
non,
voilà,
je regardais
comment ça se passait
à quelques mètres.
Il ne faisait pas lire, il ne faisait pas lire ce qu'il écrivait.
Non, mais il était à sa table de travail, c'était pas une grande table, c'était vraiment une petite table contre un mur avec plein de gris-gris qui étaient accrochés au mur. Il était très fétichiste, il gardait tout.
Est-ce qu'il était très concentré, des heures et des heures sans bouger de la table ? Est-ce qu'il avait un rythme de travail staccanoviste ou ça dépendait des moments ?
Quand il commençait à écrire, c'était souvent très tôt le matin. Mais il écrivait d'un seul jet. Il revenait pas dessus.
Ah oui ?
Ouais. Il écrivait d'un seul jet. Donc, moi, je l'ai
donc ça allait assez vite. Vous disiez 48 heures pour le Lion, je n'arrive pas toujours pas à le croire.
Si, c'est
vous
vraiment...
avez fabulé un peu là.
Non, sans blague. Il a pas mis plus. Même Gallimard était...
Vous me direz la vérité après, je ne vous crois pas.
Sans blague, hein. si. Mais après, il pouvait écrire comme ça très vite des articles. Quand il faisait des articles, il écrivait en un rien de temps.
Durant la période de votre amitié, je fais appel à votre mémoire, quels livres sont sortis à ce moment-là, que vous l'auriez vu écrire en quelque sorte ?
Ce que j'aurais pu voir, c'était Des Hommes,
oui.
Les Cavaliers.
Et Les Cavaliers, bien sûr. Ouais. C'est devenu un film avec Omar Sharif. Ça se passe en Afghanistan. Et puis Les Temps Sauvages, le fameux Temps Sauvage.
Et Les Temps Sauvages, c'est le dernier. Voilà.
Vous aviez l'impression de côtoyer un ami, point final, ou un grand créateur qui vous impressionnait ?
Non, c'était un copain, ouais. C'était un ami, un copain.
Ça ne vous impressionnait pas plus que s'il avait été plombier ?
Non. Non, puis on était devenus très proches. On parlait très librement, on posait des questions. On se voyait presque tous les jours.
Mais mon cher Hubert, ça ne vous impressionnait pas, et pourtant il est devenu académicien français.
J'estime énormément l'Académie française, et je pense que c'est un honneur que d'y appartenir. Mais couronnement veut dire fin de carrière, fin de course. Or, j'espère bien écrire encore autant que je vivrai, et ne pas changer de style, ni de style d'écrivain, ni de style dans la vie, parce que je suis académicien.
Moi, quand j'ai commencé à vouloir parcourir le monde, il me dit, quand tu veux aller quelque part, si le nom de la ville ou du lieu où tu veux aller ne te fait pas rêver, il ne faut pas y aller.
N'y va pas.
Voilà. Et donc, j'ai parcouru un peu la planète. Alors, on a une aventure à ce moment-là.
Ah, allez-y.
C'est... J'étais à Lima, à ma période Amérique centrale, Amérique du Sud, quand j'étais avec les Indiens. Il est venu me rejoindre à Lima, on avait passé un mois
ensemble.
Non,
formidable.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant un mois à Lima, tous les deux ?
On s'est baladé.
C'est
vrai. Il me dit, tu sais, on ne va pas utiliser les autocars avec les poules et les cochons.
Et les petits chapeaux melons.
Ouais. Mais on va prendre un taxi. Oh, ben, je dis, c'est toi qui décides. Hein.
Vous êtes allé au Machu Picchu, évidemment, les choses comme ça.
Alors, Machu Picchu...
Vous avez marché dans les ruines du Machu Picchu avec Kessel.
Et puis, un jour, il me dit, bon, on va prendre le taxi, puis on va aller vers le nord, on va aller en Équateur. Ah, ben, j'ai dit, d'accord. On est allé jusqu'à Quito, voilà, en Équateur. Et puis, une autre fois, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien qu'on prenne un taxi, puis qu'on aille en bas. On va juste à la frontière avec le Chili. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il y a une ville... Il s'appelle Arica, et c'est une ville indienne avec un marché indien qui est colossal. Il me dit, on y va. Donc on a visité, alors Machu Picchu, on ne pouvait pas y aller en voiture.
Il avait 70 ans quoi, à l'époque, hein, c'est ça ?
Ouais, ouais. Et Machu Picchu, on ne peut pas y aller en voiture. On ne peut pas le grimper le truc.
Non.
Donc il y a un train à crémaillère. Bon, ça fonctionne, mais on n'est pas très rassurés. mais ça fonctionne.
C'est merveilleux ces souvenirs. Ça doit nourrir votre vie encore maintenant, non? Vous y pensez?
Tout le temps. Alors bon, avec la librairie, avec la Rose de Java, c'est au quotidien.
Bien sûr.
Il y a des tas de personnes qui viennent pour que je leur parle de Jeff.
Bien sûr. Voilà. Et vous n'êtes jamais lassé de le faire?
Non.
Tel que je vous vois aujourd'hui, je sens que vous...
non.
Ça coule, c'est facile.
Non.
C'est un grand homme et c'est un ami surtout.
Oui, et puis c'est surtout des souvenirs... que peu de gens pourraient avoir.
Ah bah, personne même. Ouais. Personne. Le jeune homme qui côtoie les grands comme ça, j'adore. Et les amis que vous n'avez pas connus, évidemment, type Mermoz, Cocteau, Saint-Ex, et puis ceux que vous avez connus, comme Brassens, alors que nous parlions de Joseph Kessel, parce que j'ai appris, vous avez appris, grâce à Hubert Bocara, libraire qui tient la Rose de Java et ami proche de Kessel, que Kessel et Brassens se sont fréquentés. Vous avez passé des soirées avec eux chez Brassens, ça devait être merveilleux.
Oui, parce que Brassens habitait une grande maison. Non, au fin fond des Yvelines, qui était posé sur un parc absolument gigantesque, et il recevait ses amis.
Donc Kessel, et du coup vous?
Voilà, on y est souvent, enfin plusieurs fois.
Donc vous avez vu Kessel chanter avec Brassens?
Alors Kessel ne chantait pas.
Ah, il ne chantait pas.
Mais Brassens chantait pour nous. Et puis une amie proche de Brassens, c'était Barbara, Monique Cerf.
Elle jouait là aussi, vous avez vu?
Alors, ça lui arrivait... parfois, de se mettre au piano, parce que chez Brassens, il y avait des instruments de musique un peu partout. Et elle se mettait au piano, elle chantait pour nous.
Merveilleux.
Voilà. Et un jour, j'étais tellement fasciné par cette personne. Un jour, je lui dis, vous savez quoi, je crois que je suis très, très amoureux de vous. elle a ri.
Quel début dans la vie, mais dites-moi Hubert, à la fois c'est une chance, et en même temps, c'est difficile de se maintenir à un tel sommet en ayant fréquenté des gens pareils à 20 ans.
Ouais, mais bon, on vit avec.
Bien sûr.
Je vis avec ça. Après, je continue à vivre avec eux au quotidien.
Grâce au livre?
Grâce au livre, et puis bon, à mes visites dans les cimetières.
Ah, vous faites ça?
Ouais.
Il nous reste peu de temps, très peu de temps. Je vous demande un exercice difficile. Recommandez-moi 3 livres de Kessel. 3.
Ouais.
Recommandez-nous.
L'armée des ombres.
Ouais, sur la résistance.
Fortune carrée.
La corne de l'Afrique, ouais. Henri de Montfred.
Les cavaliers.
Les cavaliers d'Afghanistan, ouais. Le film aussi avec Omar Sharif. D'accord.
Après, bon, 3 livres, c'est réducteur. Moi, je
vais
très bien.
Ah, mais il faut choisir.
La passante du sans-souci, oui. Belle de jour.
Ah, Belle de jour, Catherine Deneuve. Un bon film, là aussi.
Alors, moi, j'aime pas trop le film.
Ah,
mais...
s'il y a Catherine Deneuve, c'est forcément bien.
Ouais.
Voilà.
Mais Buñuel n'a pas compris. Buñuel a fait une critique de la bourgeoisie, alors que Jeff a fait un livre sur la condition féminine.
Ah voilà, une belle phrase.
Ouais.
Nous avons parlé de Joseph Kessel avec Hubert Bocara, qui est libraire pour encore quelques semaines à La Rose de Java, nom d'un roman de Kessel. Pourquoi ce nom? Parce que vous êtes le propriétaire du manuscrit du livre.
Il est chez moi.
Il vous l'a donné. Et dans votre rue, car cette librairie charmante se tient pour quelques semaines encore, rue Campagne Première, une rue dans laquelle il s'est passé bien des choses. Je crois que Rimbaud y a vécu.
Ouais.
Et il s'est tourné une scène marquante du cinéma français. C'est un petit clin d'œil pour vous.
C'est vraiment dégueulasse.
Belmondo, qui est allongé en train de mourir, et Gene Seberg.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse?
Cette scène mythique du film de Godard à bout de souffle se tourne rue Campagne Première, tout près de votre librairie.
Alors, c'est plus que tout près, parce que cette scène se passe précisément... dans l'immeuble qui est au-dessus de ma librairie.
Ce n'est pas que je veuille me tresser des couronnes, mais j'ai été bien inspiré alors avec cet extrait. Je ne suis pas mécontent de moi.
C'est exactement dans l'immeuble au-dessus.
Écoutez Hubert, merci vraiment de votre présence,
merci.
Des témoignages que vous seul pouvez donner sur Kessel. Nous sommes beaucoup à aimer Kessel. Je vous encourage à lire Kessel, soit les livres que vous avez recommandés, ceux que je recommande moi, qui sont bien aussi, comme Les Temps Sauvages ou Les Enfants de la Chance. Voilà, je rajoute mes deux. Il y en a 88, vous avez le choix. Vous pouvez venir en acheter quelques-uns encore, vite fait, quelques semaines chez Hubert Bocara à La Rose de Java. Lisez, 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 il faut lire. Et notamment Joseph Kessel. Merci beaucoup Hubert Bocara.
Merci de m'avoir reçu.
Radio Courtoisie. Toutes les droites, tous les talents.
Un acteur important du tennis français depuis plusieurs décennies, Denis Négelen. Bonjour Denis, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Un rappel pour ceux qui ne le savent pas, j'ai regardé en détail, je me suis amusé, je suis plongé dans les archives de l'ATP pour voir différents matchs que vous aviez faits. J'ai découvert que vous avez joué Villas à Roland-Garros, Guillermo Villas, les gens s'en souviennent.
Oui, bien sûr, oui, j'ai joué Villas au deuxième tour sur le central, je me souviens très bien.
Un souvenir de quel type? Ému du moment ou déçu de perdre? Enfin, comment vous l'avez vécu?
Je m'entendais très bien avec Villas et j'ai continué à m'entendre longtemps avec lui. Il est malade aujourd'hui, donc
ah bon
on se parle moins. un souvenir d'avoir un peu gâché le moment. Parce que j'étais très ému de rentrer sur le central. À cette époque, le central, on descendait par un escalier, c'était tout noir, il n'y avait pas la lumière, comme aujourd'hui, un stade magnifique, totalement refait. Il y avait un escalier en bois qui était un peu dans le noir, et on poussait la bâche de fond de cours pour rentrer sur le cours. C'était un jour un peu comme aujourd'hui. Il faisait très chaud et beaucoup de lumière, et je sortais dans le noir, et j'étais tout de suite ébloui. Ébloui, me rendant
dans tous les sens du terme.
Oui, ébloui parce que je me rendais pas bien compte de ce qui se passait. En plus, je savais que c'était, je jouais contre un des trois meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Donc, de toute façon, a priori hors de portée, mais on est toujours dans le rêve quand même quand on a ce type de situation. Et voilà, je me souviens de ça. Et au début, je me rendais pas bien compte où j'étais. Je crois que je menais au premier set sans me rendre compte vraiment ce qui se passait. et quand je me suis réveillé, ça a été plus douloureux.
En 80, vous êtes dans les 32 meilleurs joueurs à Roland-Garros. C'est formidable. Est-ce que vous gagnez bien votre vie à l'époque avec ça?
Je gagne 150 fois moins que ce que gagnent les joueurs aujourd'hui. Mais l'important n'était pas là quand on fait ce métier. Moi, quand je l'ai fait, c'était... Je décide à 20 ans seulement de devenir professionnel et parce que je me rends compte que quelque part je m'ennuie dans mes études, que j'essaye douloureusement de poursuivre d'école d'ingénieur et j'arrête au bout d'un an et demi et je décide de partir sur le circuit. Donc c'est la passion qui m'anime. Donc j'avais suffisamment d'argent pour vivre, pour payer mon loyer, pour me nourrir, pour voyager. Donc quand on a 25 ans et qu'on peut se permettre de se dire tiens la semaine prochaine il faut que j'aille jouer à Munich et la semaine d'après à Melbourne, j'avais de quoi me payer le billet, mais difficilement, en raclant et en finissant mal les fins de mois, mais je pouvais le faire. Et quand on a cet âge-là, c'est une chance, je me sentais libre.
Le jour où vous mettez la raquette définitivement dans sa housse, est-ce qu'il y a une frustration, il y a des regrets, est-ce que vous n'êtes pas allé aussi loin que ce que vous aviez rêvé?
Pas vraiment, non. Je pense que on peut toujours se dire tu aurais pu être meilleur si tu avais été plus dur au combat sur le physique à l'époque ou si tu avais peut-être fait un peu moins la fête, mais je faisais pas tellement la fête, mais ça m'est arrivé mais j'avais un âge où on commence à se blesser, donc le corps vous dit d'arrêter.
Vous arrêtez à 30 ans, en gros?
Oui, j'arrête à 30, 32 ans.
Et comment expliquez-vous que maintenant, c'était le cas à l'époque, hein, Noah s'arrête à 30 ans, Borg à 25, donc, les gens à 30, 31, ils arrêtaient presque tout, sauf Connors qui était le seul. Comment expliquez-vous que autant de joueurs maintenant arrivent à durer 10 ans de plus que ce que vous faisiez à l'époque?
Je pense que c'est parce qu'ils se préparent beaucoup mieux. Parce que la préparation, la diététique... le stretching, les étirements, la façon de travailler son corps est très différente de ce que nous faisions à l'époque, où on faisait surtout de l'endurance et du cardio sur des longueurs, sur de la course, et avec très peu d'étirements à cette époque-là.
Mais tous les jours quand même, c'est quand même du physique tous les jours à l'époque?
Ah oui, c'est du physique tous les jours.
Tous les jours. Des gammes de tennis
mais pas bien structuré. Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est que les entraîneurs physiques ont une sorte de règle de science de leur entraînement, ce qu'on n'avait pas.
Nutrition aussi peut-être, on y faisait moins attention à l'époque, pas du tout.
Exactement, on ne faisait pas très attention. Je me souviens qu'à l'époque, on me disait, avant un match, il faut que tu prennes un steak et une salade. Donc, ce qui est aujourd'hui risible.
Mais là, oui, Djokovic, bien sûr, tout le monde le dit, mais aussi mon fils, mais aussi Manarino, 37 ans, Wawrinka, enfin beaucoup de joueurs arrivent plus loin. Essentiellement, vous pensez dû à l'entraînement, à ce qui se passe autour du tennis?
Oui, à la préparation. Je pense qu'ils font plus attention à leur corps. Pour durer, à l'instant où ils le font, ils ne le font pas pour durer, ils le font pour gagner la semaine d'après. Mais la façon dont ils le fait que Djokovic ait été le premier à parler de diététique à ce point-là, à peser ses aliments, à être le premier à faire un régime sans gluten, tout ça a interpellé quand même un peu les autres joueurs. Et ils se sont rendus compte que si le mec est aussi fort, si le mec est aussi bon et qu'il dure encore, c'est peut-être parce qu'il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire.
La part psychique est invraisemblable dans le tennis, énorme, non, plus qu'ailleurs.
Elle est fondamentale et la préparation mentale l'est de plus en plus. Et il y a de plus en plus de joueuses et de champions et championnes qui se soignent mentalement parce que moi je le vois même dans mon tournoi aujourd'hui, j'ai sur place en permanence. Un psy et j'ai une cabine de soins mental.
Encore plus chez les filles, non?
Je ne sais pas si c'est plus chez les filles. En tout cas, il y a une demande des filles qui est évidente, peut-être moins des mecs, mais chez les filles, oui, elles le demandent, la WTA l'exige. Et je trouve ça bien, parce que ça leur permet d'être plus à l'aise, de se sentir mieux, de pouvoir se libérer par la parole, et tant mieux.
Les grands tournois, et le vôtre en fait partie, font vraiment maintenant des choses incroyables pour les joueurs. Ils sont bichonnés beaucoup plus qu'à votre époque.
Ah, ça n'a rien à voir, mais moi, j'étais pas un grand joueur. Donc, il y avait à cette époque-là une vraie différence entre les bons, les têtes de série et les autres.
Quel est le plus haut rang ATP que vous ayez atteint?
Moi, j'ai été 110, 120 par là, et c'était à peu près.
Au niveau d'Hugo Gaston actuellement, en gros, Quentin Alice, ces gens-là.
Mais à cette époque, quand on jouait sur un tournoi, par exemple, en Australie, certains joueurs, les 20 premiers, étaient à l'hôtel et invités par le tournoi, ou peut-être les 30 premiers, et les autres étaient chez l'habitant. Alors, ça n'a rien... Oui, c'était une belle coutume anglo-saxonne, et je la regrette pas du tout, c'était moins confortable. Et donc, quand on a 18, 20 ans, on râle un peu, parce qu'on a l'impression de perdre un peu de sa liberté. Mais en fait, avec du recul, on se rend compte que c'est certainement une des meilleures expériences que j'ai pu avoir dans la formation de ma vie, parce que vous êtes chez des gens différents, tout simplement, et c'est une école de vie exceptionnelle.
Nous parlons aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de sport, de tennis. Roland-Garros se joue en ce moment sous une chaleur effrayante et tout près d'ici. Et avec nous, pour en parler de tennis en général, de son parcours, de sa vision de ce sport, Denis Négelen, à la fois joueur, il a les années 70-80, et maintenant, depuis déjà un certain temps, organisateur, patron de tournoi, le grand tournoi de Strasbourg, international de Strasbourg, le deuxième tournoi en importance, je crois, féminin en France, derrière Roland-Garros, on est bien d'accord.
Ah oui, on est bien loin derrière Roland-Garros,
mais
on est le premier tournoi 100% féminin en France.
C'est ça.
Donc on est le seul tournoi 500, WTA 500.
Donc, oui, c'est une catégorie, il y a les Grand Chelem, les Master 1000 et ensuite ça.
Voilà, si on considère, et puis ça veut dire 500, ça veut dire qu'on distribue 500 points à la vainqueur. 1000 distribue 1000 points, 250 distribue 250 points au vainqueur. Si on se base sur ces chiffres-là, c'est-à-dire le nombre de points distribués et l'argent distribué pendant le tournoi, les prize money, on est le troisième plus grand tournoi de France après Roland-Garros et le Rolex Paris Master.
Bien, bravo. Quel est le budget d'un événement comme celui-ci?
Il est de l'ordre de 5 millions, un peu plus.
Qui proviennent de sponsors, un peu de collectivités locales aussi.
Ils proviennent de sources extrêmement diversifiées. Ils proviennent de droits télé, de droits du betting. Ils proviennent de la commercialisation des droits des data. Ils proviennent de sponsoring. Ils proviennent de revenus d'hospitalité. Ils proviennent aussi de subventions. Particulièrement les tournois de province sont soutenus généralement par leur collectivité. Ils proviennent de la billetterie aussi, voilà. Donc tous ces revenus font que c'est presque une approche intéressante. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est que il faut comprendre une trentaine de métiers pour être organisateur d'un grand tournoi de tennis.
Expliquez-moi, mais ça, je suppose que vous êtes confronté à ça, comme tous les connaisseurs du tennis, ça fait des années et des années que finalement, au bout de 3-4 jours, au bout de 2 tours, il n'y a plus personne français, sauf épiphénomène quand on a des boissons, là, il reste un joueur français, et ça va bientôt être fini. On a l'impression qu'on se rencontre rétroactivement que Gasquet, Simon, Tsonga, mon fils, c'était énorme, et on a du mal à trouver derrière.
Vous avez raison, mais je voudrais quand même vous dire qu'il reste Diane Paris.
Voilà. Donc, elle était en train de jouer, je ne sais pas si elle a gagné son match.
Elle a gagné. D'accord. Donc c'est formidable.
Donc elle est en 8e de finale.
Non, mais c'est véritablement un exploit, parce que Diane Paris est une joueuse qui... Elle a un mérite, je lui reconnais un mérite énorme. Elle bosse, c'est une bosseuse. Et je suis content qu'elle ait gagné, parce que vraiment, elle mérite. Quand on travaille aussi bien... Elle a du talent, vraiment. Elle a un jeu qui est très très varié. Elle sait tout faire et elle a besoin de gagner des matchs comme ça. Je pense que c'était un match très dur. J'espère qu'elle ne sera pas trop éprouvée, mais elle peut gagner d'autres grands matchs comme ça. Anisimova, c'est une grande championne.
Deux fois finaliste de Grand Chelem.
Et il fallait la battre.
Mais j'ai beaucoup de respect pour les grands sportifs. Hein. Il ne s'agit pas de... C'est facile de critiquer derrière son fauteuil, évidemment. Mais c'est un peu juste statistique. Même le tennis français féminin, il y a 10-15 ans, Pierce, Mauresmo, Testu, Allard, beaucoup de filles dans les 20 premières. Et on a l'impression que ça s'est un petit peu effondré quand même. Est-ce qu'il y a une raison logique à ça ou c'est conjoncturel, générationnel? Par exemple, et j'en termine après, comment expliquez-vous que l'Italie, qui n'existait pas dans le tennis depuis pendant des décennies, brusquement, là j'ai compté, ils sont 8 dans les 30 meilleurs. Est-ce que c'est une politique de la Fédé? Qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des talents qui émergent dans une politique de fédération qui est meilleure que celle qu'on a pratiquée. Je ne veux pas critiquer la Fédération française qui, par ailleurs, fait un travail remarquable, mais qui s'est peut-être trompée sur des choix d'aide et n'a pas assez poussé. Et elle vient de s'en rendre compte depuis quelques mois. Les tout petits tournois, les joueuses françaises qui sont assez fortes ou du même niveau que les autres de leur âge à 14, 15 ans, ont du mal à passer en catégorie adulte. Alors, c'est difficile pour les joueuses parce que ça veut dire aller gagner ses premiers points sur des 15 000 dollars, sur des 30 000 dollars. Ces tournois étaient essentiellement à l'étranger jusqu'à présent, donc il fallait aller en Tchécoslovaquie, il fallait aller en Amérique du Sud. Ce qui n'est pas facile parce que aujourd'hui, compte tenu des problèmes aussi de sécurité, les parents lâchent pas facilement leur petite fille toute seule sur un circuit avec un entraîneur. Donc tout ça est une approche nouvelle. Et il était important que les joueuses trouvent en France la capacité, la possibilité de jouer des tournois de 15 000, 25 000, 30 000, 50 000 dollars qui leur donnent l'accès aux points pour après passer en adulte. Donc quand elles ont 15 ans, 16 ans d'aller jouer. Cette année, j'ai décidé à Strasbourg de créer un 15 000 dollars en préqualification de mon tournoi pour essayer, d'ici un an ou deux ans, de séduire les meilleurs jeunes du monde pour qu'ils viennent jouer une semaine
un
avant.
Un peu comme les petits as pour les garçons.
Avec des points, c'est pas ça. Pareil. Mmh. Avec de l'argent et des points. D'accord. Donc c'est déjà un tournoi pour...
Dernier mot sur l'argent. Que pensez-vous du mouvement, du petit mouvement qui s'est un petit peu dressé ces jours-ci des joueurs exigeant une part plus importante du revenu du tournoi, Roland-Garros, redistribué aux joueurs? Ça vous semble légitime?
Absolument pas. Je pense que je connais pas de métier. Maintenant, je travaille dans une vie normale, on va dire, d'entrepreneur depuis 40 ou 50 ans, où on gagne 10%, 15%, 20% de plus chaque année, sans que ça change. Donc, et vouloir maintenant avoir 50%, je trouve ça pas moral.
Ils disent, je crois, surtout que c'est 15% des revenus qui seraient redistribués aux joueurs, disent-ils. Il me semble que c'est ça le chiffre qu'ils annoncent.
Peut-être que leur demande d'il y a 2-3 ans d'avoir une participation sur les droits télé était fondée. Elle n'a pas été reçue. Peut-être que ça a créé un peu de vexation. Et aujourd'hui, les joueurs et les joueuses qui s'y mènent ce combat disent que c'est pour le 300e ou le 400e mondial. Peut-être.
Qui ne gagne pas sa vie, c'est sûr.
C'est pas tout à fait vrai, mais il gagne. Ça dépend ce qu'on entend par gagner sa vie.
Au foot, par exemple. 20 clubs pro
oui,
en France.
Oui, d'accord. Mais
il gagne 300 000
joueurs moyens. Faut-il se comparer au foot?
Non, mais je veux dire qu'être 200e mondial dans un sport, c'est extraordinaire.
Vous avez raison.
Le 200e footballeur français gagne plus que le 200e tennisman mondial.
Oui, on est d'accord. Bon, à ce niveau-là, les choses sont très différentes. Un joueur de foot, c'est un salarié. Un joueur de football, un joueur de tennis, c'est un indépendant.
C'est vrai.
Donc, il a besoin, forcément, pour augmenter ou faire plier ceux qui donnent l'argent, c'est-à-dire les organisateurs de tournois, il a besoin d'être uni, donc il a besoin d'être syndiqué d'une certaine façon. On appelle ça comme on veut, mais c'est à peu près le même principe. Donc, mais à ce stade, pour répondre à votre question sur est-ce que je trouve ça bien et normal, cette volonté de mener par Sabalenka, Djokovic et tout, de vouloir toujours gagner plus, me paraît pas moral. Très clairement. Quand on gagne autant de millions, on se doit d'avoir un peu de décence.
D'accord. Message reçu. Denis Neijden, vous avez joué par équipe pour la France?
Non, je fais partie de... C'est pas tout à fait... C'est comment dirais-je, un peu pitoyable. Je fais partie de ceux qui ont été sélectionnés pendant 2 heures en Coupe Davis.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'un jour, je m'entraîne, c'était à l'époque où la France jouait contre le Portugal, et puis il y avait la guerre des œillets, où la...
Oui, 74.
Et donc les joueurs français disaient « je joue pas ». Et puis Philippe Châtrier, pour des raisons politiques, voulait que les Français jouent et aillent jouer au Portugal. Donc moi, à ce moment-là, je pars à l'entraînement à Roland-Garros, et je suis pas du tout dans ceux qui ont l'ambition, enfin, ou je fais pas partie des quatre meilleurs, donc je suis, voilà. Et je souhaite être septième à l'époque français, et je passe devant le bureau de Pierre Darmon, qui était à l'entrée des vestiaires de Roland Garros à cette époque.
Il est capitaine de l'équipe.
Capitaine de l'équipe, et Pierre sort et vient me voir au vestiaire en me disant, écoute, François Geoffrey veut pas jouer, il dit qu'il est blessé, qu'il s'est blessé ce matin.
Le numéro 1 à l'époque.
Ouais, numéro 1 français. Donc j'ai une équipe un peu pas très solide, est-ce que toi tu accepterais de jouer? Je lui dis, mais Pierre, bien sûr que j'accepterais de jouer. Et donc je pars m'entraîner, au bout de 2 heures, je vais jouer sur un des cours du fond qui ont été changés de numéro depuis, ça devait être le 7, le 8 ou je sais pas quoi. Et je vois Pierre revenir au bout de 2 heures et me voir, il me dit, écoute, il faut que je te parle. Alors je lui parlais, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il me dit, j'ai eu François Geoffrey, je sais qu'il est blessé, mais il veut pas te laisser sa place. Donc il a décidé, je peux pas non plus de pas le mettre dans l'équipe. Donc voilà, donc tu n'es plus dans l'équipe. Donc voilà, j'ai été sélectionné pendant 2 heures.
Ah oui, un peu rageant, une petite amertume quand même.
Bon, c'est pas officiel tout ça ouais. C'est fait derrière, mais pas une amertume, parce que je n'étais pas légitime pour être vraiment dans les meilleurs à ce moment-là, pour représenter la France, mais c'est vrai que
François Geoffrey, je
le dis en plaisantant, est-ce que vous avez été sélectionné en Coupe Davis? Oui, 2 heures.
Mais en dehors des par équipe, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution dont on parle régulièrement, ça revient sans arrêt, puis ça repart, de l'évolution des règles, notamment supprimer les 2 balles au service, supprimer le let, raccourcir le jeu parce qu'on pense que ce n'est plus adapté au monde moderne, c'est trop long, le paddle est en train de prendre le pas au niveau des amateurs, certains, il y a aussi les matchs organisés par Mourad Touglouze, un format très très bizarre. Vous pensez que c'est sain, que le tennis doit s'observer, doit évoluer?
C'est beaucoup de conneries pour moi.
C'est très clair, c'est l'avantage avec vous.
Non, je pense que inventer des nouvelles règles de tennis est fort parce qu'il s'appuie sur une tradition longue. Alors c'est vrai qu'il y a des changements, il y a la télévision, il y a tout ce qu'on veut, mais vous croyez que j'ai écouté ce matin le match de Kwame a fait 6 millions de téléspectateurs. Mm-hmm. C'est un match de deuxième tour de Roland-Garros et qui fait 6 millions de téléspectateurs. Et vous pensez qu'à un moment, les téléspectateurs se sont dit « Non, mais ce tennis, il faut le changer ». Ça n'existe pas du tout. Ils ont trouvé ça passionnant. Cette règle du fait que on sait jamais qui va gagner. Vous êtes à 5 partout au 5e, vous savez pas, et vous êtes, on joue pas à la montre, on joue, chacun peut encore gagner, chacun peut perdre. Et donc, ce suspense-là, c'est les règles du tennis. Pourquoi donc vouloir absolument les changer?
David Nejden, donc, nous dit, les règles ne doivent pas changer.
Je dis que, sur le service, on peut s'adapter.
De quelle manière?
Le fait que... Je pense qu'il faut, d'une certaine façon, raccourcir le jeu. Je crois qu'il ne faut pas faire des tie-breaks trop longs, mais d'accord, il faut qu'il existe un tie-break et qu'il ne soit pas tronqué par le fait qu'on joue qu'un seul service, alors que c'est sur le deuxième service qu'on voit la force des caractères.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle mesure, alors?
Il faut trouver... Moi, je ne changerais rien. Sur les grands chelems, j'aurais, compte tenu de ce que je vois cette année à Roland-Garros, mais compte tenu aussi d'une période caniculaire exceptionnelle, je m'interroge quand même sur le devenir de ce type de situation.
Du format en 5-7, vous voulez dire?
Le format en 5-7 sur 5 heures est quelque part inhumain. Il y a un truc, quand je regardais un match, je ne sais plus lequel, où le joueur...
Mensik, le tchèque.
Mensik, qui ne peut même plus se relever, qu'on sort du court sur une chaise roulante, ça me fait mal.
Mais paradoxalement, vous avez vu que certaines femmes envisagent, notamment Sabalenka, de jouer en 5-7, elles aussi.
Parce qu'elle peut jouer 5-7, elle sait qu'elle va encore plus les écraser, c'est pour ça, mais ça n'a pas de sens.
Non. Sans parler du haut niveau, en parlant du sport tennis en général, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, qu'il y a moins de gens qu'avant qui jouent au tennis. Il y a dans tous les villages de France, à une époque, on a construit des courts flambant neufs, on en voit souvent qui sont un peu vides. Le paddle donne des vrais coups de boutoir. On a l'impression que le monde moderne, le monde des réseaux sociaux, le monde de la versatilité, du changement rapide, a envie d'un jeu un peu différent, moins traditionnel, moins long, qui demande moins d'apprentissage que le tennis. Est-ce que vous pensez que le tennis est menacé par ça?
Certainement. Certainement, la pratique baisse. Les licenciés augmentent parce que la fédération fait du bon boulot et qu'elle a su ramener au sein de sa fédération le padel, le pickleball et bientôt probablement encore un autre sport pour le quatrième âge.
Ah, ils sont inclus dans la fédération de tennis ?
Oui.
D'accord.
Donc quand vous prenez une licence de padel, mais vous pouvez avoir une licence que de padel, mais c'est une licence de tennis. Vous êtes licencié à la Fédération Française de Tennis. Le padel est un sport sympa. Je ne le joue pas, donc je ne peux pas avoir d'avis extrêmement précis là-dessus. Ce que je ressens, c'est qu'il a une vraie fonction dans les clubs pour fidéliser les membres, parce qu'il est plus ludique, parce que d'abord il est plus facile. Pour jouer au tennis, on a oublié qu'il fallait être capable, pour s'amuser, pour prendre un peu de plaisir au tennis, il faut être capable de faire des échanges.
Bien sûr.
Des échanges assez longs, et après de pouvoir construire des points, etc. Pour arriver à ça, il faut de la technique. Il faut avoir pris des leçons régulières. Enfin, certains y arrivent sans leçons, mais sont rares. Et donc, y a un apprentissage qui est long. Je dirais qu'il faut 2 ans avant d'être capable de prendre du plaisir sur un court de tennis. Au padel, en 2 heures de padel, vous vous amusez.
Donc c'est adapté à la volonté consommatrice actuelle.
Tout à fait. En plus, il y a une autre raison qui est, à mon avis, fondamentale dans la vie des clubs. Le padel, il se joue en double. Donc vous êtes 4. À mon époque, je me souviens très bien que même quand j'avais 17 ou 15 ans, quand on jouait même un entraînement la semaine avec des gens du club, ben quand on les battait, on allait leur offrir un coup à boire. Ça faisait partie des règles du fair play du tennis. Et bien sûr, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais quand on est au padel, on est 4. Ça veut dire qu'on arrive à consommer plus facilement autour du bar. Ça fait vivre le bar, ça fait vivre un club. C'est la vie sociale du club. Et le fait que de plus en plus de gens qui jouent au tennis arrivent habillés en tenue et repartent sans s'être douchés dans le club pour se doucher chez eux, ne participe pas à la vie sociale du club de tennis. Donc le padel a quelque chose d'intéressant pour moi pour ça.
Est-ce que parfois, pardon pour une question un peu naïve, est-ce que parfois vous jalousez, entre guillemets, ceux qui n'étaient pas si loin de vous, vos compagnons, qui ont réussi cette chose-là et que vous n'avez pas connu ce plaisir suprême d'un grand titre?
J'en ai rêvé, mais j'en ai jamais fait de cauchemar, donc... mais bon, comme tous les joueurs, non, jalousé, non, sûrement pas, jamais. Non.
Oui, le mot était malvenu, ouais. Je veux dire, envié peut-être.
Ouais. Bon, oui, envié, oui.
Vous pensez que quand on a connu ça, ce Graal suprême, ça change la vie des gens?
Bah, sans aucun doute, ça change la vie des gens. La difficulté, c'est de savoir comment on reste soi-même, alors que tout le monde vous voit d'une autre façon.
Elle s'est arrêtée juste après, d'ailleurs, elle. Spectacle.
Oui, c'est pour moi une énigme encore aujourd'hui. Je connais pas bien Marion, mais on a eu l'occasion de se parler et on se croise et on essaye, mais j'ai jamais approfondi ce qu'elle a ressenti après cette victoire. Le fait de dire aussi vite j'arrête ma carrière m'a paru irréel. Pour pas dire autre chose, mais j'ai trouvé ça stupide.
Oui, elle n'a pas capitalisé sur ce grand moment.
Oui, alors que il y avait un tas de choses à faire encore, mais pour quelqu'un de normal, elle avait choisi sa voie, c'est respectable.
Est-ce qu'un grand champion, la question est volontairement banale et provocatrice à la fois, est-ce qu'un grand champion est forcément quelqu'un de très intelligent?
Non. Non. Non, ça c'est une légende.
J'aime bien, moi, vous êtes vraiment direct, vous.
Non, vous savez, il y a savoir formidablement bien taper dans la balle, savoir connaître son corps et résister à l'adversité ne fait pas forcément de vous quelqu'un d'intelligent.
Ouais. Merci beaucoup, Denis Neijlen.
C'était
vraiment un plaisir de vous recevoir. À bientôt sur Radio Courtoisie. La semaine prochaine, on parlera des écrivains français en Asie, un autre monde.
Vous venez d'entendre les meilleurs moments des neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé samedi 8 août 2026 de 18h à 19h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.